êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal Nawal El Amouchi. Plus de 100 ONG, dont Médecins Sans Frontières, Amnesty International, Oxfam International et Médecins du Monde, ont mis en garde contre une famine généralisée imminente dans la bande de Gaza. Nous y revenons plus en détail dans notre journal. Ce sera la première visite officielle en France. Le Premier ministre libanais se rendra demain à Paris. Nawaf Salam s'entretiendra avec Emmanuel Macron. Quel sera le menu de cette visite officielle? On fera le point dans ce journal. Et enfin, sur la situation en Ukraine, une troisième session de négociations avec la Russie et l'Ukraine s'ouvre aujourd'hui à Istanbul. Le Kremlin affirme ne pas s'attendre à des progrès majeurs et reste ferme sur ses conditions. Et nous commençons ce journal par la situation à Gaza. Plus de 100 ONG, dont Médecins Sans Frontières, Amnesty International ou encore Oxfam, ont mis en garde contre une famine généralisée imminente dans la bande de Gaza. Et c'est dans ce contexte que les États-Unis ont annoncé cette semaine l'arrivée de l'émissaire américain en Europe pour finaliser un corridor pour l'aide humanitaire. Le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, Nawal, vous l'avez dit, hein, c'est un cri d'alarme de 100 ONG face à la tragédie. Tragédie vécue par les Gazaouis et la famine de masse. L'hôpital de Gaza a fait état hier de 21 enfants morts de malnutrition ou de faim en 72 heures sur le territoire assiégé. Alors qu'une famine de masse se propage dans la bande de Gaza, nos collègues et les parents que nous aidons dépérissent. Des mots dans un communiqué signé par de nombreuses ONG, dont Médecins Sans Frontières, plusieurs branches de Médecins du Monde, des Caritas, Amnesty International ou encore Oxfam International. Elles appellent toutes à un cessez-le-feu immédiat, mais aussi à l'ouverture de tous les points de passage terrestre et à la libre circulation de l'aide humanitaire. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, dont vous entendrez le porte-parole dans ce journal, a accusé l'armée israélienne d'avoir tué à Gaza depuis la fin mai plus de 1000 personnes qui cherchaient à obtenir de l'aide humanitaire. Et ce qui est frappant, eh bien, c'est que la grande majorité des victimes se trouvaient près des centres de la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, au financement opaque et dont les pratiques sont dénoncées par les ONG aussi, par l'ONU, Nawal.
Oui, hein, et les autorités israéliennes affirment régulièrement laisser passer des quantités importantes d'aide, mais les ONG, elles, dénoncent de nombreuses restrictions.
Et oui, les organisations humanitaires affirment qu'elles sont empêchées d'accéder à des entrepôts qui abritent des tonnes de nourriture, mais aussi de l'eau potable, des fournitures médicales, du matériel d'hébergement et du carburant. Or, de son côté, Israël accuse le Hamas d'exploiter la souffrance des civils, notamment en volant la nourriture distribuée pour la revendre ou en tirant sur les personnes qui attendent de l'aide, des affirmations qui ne sont pas confirmées par les instances internationales. C'est dans ce contexte que l'émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre cette semaine en Europe. Alors, le pays dans lequel il ira n'est pas encore dévoilé. Des responsables américains affirment qu'il pourrait ensuite se rendre au Moyen-Orient. Et d'après la porte-parole du département d'État américain, son objectif est de parvenir à un nouveau cessez-le-feu ainsi qu'à un corridor humanitaire pour l'acheminement de l'aide. Et cela, Nawal, après l'échec des dernières négociations indirectes entre Israël et le Hamas.
Et face à cette situation catastrophique dans la bande de Gaza, je vous propose d'écouter Tamen Al-Ketan, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Le cauchemar est en train d'empirer avec ces frappes et ces opérations terrestres qui vont entraîner invariablement la mort de nouveaux civils et la destruction d'infrastructures civiles. Compte tenu de la concentration de civils dans la région et les moyens et les méthodes de guerre qui sont utilisées par Israël jusqu'à présent, eh bien les risques d'homicides illégaux et d'autres violations graves du droit humanitaire international sont extrêmement élevés.
Avec parallèlement de nombreuses personnes tuées lors de distribution de nourriture effectuée par ce qui est appelé la Fondation humanitaire pour Gaza, et cela suscite bien entendu l'inquiétude des Nations Unies.
En effet, on l'a rapporté aujourd'hui, nous avons enregistré 1054 personnes qui ont été tuées à Gaza pendant qu'elle cherchait à obtenir de la nourriture depuis le 27 mai, donc le jour où a commencé le travail de cette fondation. Plus de 700 personnes parmi ces personnes qui ont été tuées l'ont été à côté des sites gérés par cette fondation. Il faut absolument qu'Israël cesse de tirer sur les personnes qui cherchent à obtenir de la nourriture. Les personnes sont affamées. Elles voient que quand on s'approche de ces sites-là, eh bien, on se fait tirer dessus. Mais elles continuent d'y aller. Pourquoi ? Eh bien, parce que elles n'ont pas le choix.
Et l'Organisation des Nations Unies a établi qu'il s'agissait de tirs délibérés sur ces personnes.
C'est pour cela qu'on appelle à des enquêtes indépendantes et transparentes dans chacun de ces cas de meurtre pour pouvoir établir la vérité, pour pouvoir établir les intentions derrière ces tirs et pour que les personnes responsables puissent rendre des comptes.
Qui pourrait être susceptible de mener cette enquête ?
Alors, c'est la responsabilité des autorités israéliennes, qui sont les autorités de l'occupation dans la bande de Gaza, de mener des enquêtes et de s'assurer que ceux qui sont responsables puissent rendre des comptes. C'est la responsabilité d'Israël.
Mais Israël a déjà répondu sur cette question et nie des meurtres délibérés. Est-ce qu'une autre instance pourrait être susceptible de mener une telle enquête ?
Alors, dans le droit international, si l'État en question s'avère en manque de volonté ou en manque de capacité de mener des enquêtes, il peut y avoir, en ce cas-là, des enquêtes menées par la juridiction internationale ou par des tribunaux nationaux dans d'autres pays faisant valoir le principe de la juridiction universelle pour les crimes les plus graves dans le droit international.
C'était Amen El-Khaitan, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au micro de François-Xavier de Calonne. Et Nizar Badran, lui, est médecin franco-palestinien et président de l'association Palmed France qui organise la solidarité médicale entre les hôpitaux français et palestiniens. Il nous raconte la situation qu'il juge dramatique de ses confrères sur place.
La situation, comme vous pouvez l'imaginer, est très difficile et dramatique. Les médecins eux-mêmes qui sont susceptibles de soigner les patients en malnutrition ou sous-nutrition sont eux-mêmes en position difficile pour trouver de quoi manger. Donc nos médecins sont fatigués, nos médecins cherchent aussi, comme les autres, à pouvoir s'alimenter. Et la situation est très dramatique. Moi, je réfère à la déclaration du directeur de l'hôpital, Jouad Al-Arsa, qui a bien noté que ces médecins... ils ne trouvent pas de quoi absolument eux-mêmes s'alimenter et que leurs propres malades n'ont pas l'alimentation, ils n'ont plus d'alimentation, de repas qu'on doit donner aux malades, même pas un seul repas par jour. Donc c'est une situation très difficile pour le corps médical, d'autant plus que les nombres des patients, le nombre de morts augmentent tous les jours et augmentent de façon exponentielle. Actuellement, la déclaration hier du directeur de l'hôpital à Shifa, Abu Sulmiyeh, note 21 enfants morts en 72 heures. Ça monte de façon très rapide.
C'était Nizar Badran, médecin franco-palestinien et président de l'association Palmed France, qui organise la solidarité médicale entre les hôpitaux français et palestiniens. Et toujours sur la situation à Gaza, cela fait des mois que Reporters sans frontières demande que la presse internationale accède à l'enclave palestinienne. Jonathan Dagher, responsable du bureau du Moyen-Orient de Reporters sans frontières, lance lui un cri d'alarme sur la situation catastrophique vécue par les journalistes palestiniens dans l'enclave. On l'écoute.
La situation des journalistes aujourd'hui dans la bande de Gaza est vraiment catastrophique. Elle l'a été vraiment depuis presque 2 ans. On alerte depuis octobre 2023 sur le meurtre des journalistes, plus de 200 tués par l'armée israélienne depuis octobre 2023. Et on sait qu'il y a des journalistes qui sont ciblés, on sait que des rédactions sont ciblées, Internet coupé, un blocus médiatique imposé, voilà, donc c'est vraiment catastrophique. Mais c'est devenu encore pire il y a quelques semaines, voire quelques jours, parce que la famine extrême qui touche Gaza est en train d'affecter à présent les journalistes. Vraiment, on a parlé avec des journalistes ce matin même et hier qui nous disent que ça devient impossible pour eux de se tenir debout devant les caméras, de se lever pour travailler. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'eau, ils ne trouvent plus à manger. Ça les touche eux-mêmes en tant que journalistes, ça impacte leur métier, mais en même temps, ça impacte leur famille. Et donc ces journalistes-là, au lieu de pouvoir travailler malgré les difficultés qui existaient déjà, ils se retrouvent à aller chercher de la nourriture pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs proches.
Parce que là, vous parlez bien entendu de journalistes palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza.
C'est des journalistes palestiniens gazaouis qui vivent dans la bande de Gaza et qui sont piégés dans la bande de Gaza. Parce que, effectivement, comme vous le dites, la presse internationale ne peut pas rentrer. On travaille sur ce sujet depuis des mois. Et en fait, voilà, il y a eu l'appel de ASF aux côtés du CPJ, le Committee to Protect Journalists, l'autre organisation qui défend la liberté de la presse. Et en fait, dans cet appel de ASF, on a réussi à réunir plus de 200 signataires qui représentent des médias internationaux partout dans le monde qui réclament leur droit d'envoyer leurs correspondants dans la bande de Gaza. En même temps, on tente d'évacuer des journalistes de la bande de Gaza qui ont besoin de sortir. Malheureusement, ça n'avance pas du tout. C'est complètement bloqué du côté du gouvernement israélien. Les journalistes ne peuvent plus sortir.
Et c'est très important de rappeler que les journalistes palestiniens qui couvrent cette guerre ne sont pas sous la coupe du Hamas et travaillent librement.
Absolument. En fait, c'est des journalistes qui travaillent depuis très longtemps, malgré les pressions de Hamas, je dirais. C'est eux qui sont vraiment les gens sur le terrain, qui peuvent vérifier les faits, qui peuvent nous donner l'information fiable, qui peuvent nous raconter ce qui se passe. Les journalistes, comme partout dans le monde, sont des journalistes, même quand ils travaillent dans des contextes autoritaires, sous des régimes liberticides qui ne respectent pas la liberté de la presse, et c'est certainement le cas du Hamas. Même dans ce cas-là, les journalistes, ils restent journalistes.
C'était Jonathan Daguerre, responsable du bureau du Moyen-Orient de Reporters sans frontières, au micro de François-Xavier de Calonne. Et Mike Oukabe, l'ambassadeur américain en Israël, s'est rendu samedi à Taïbe, un village chrétien de Cisjordanie occupé, où il a dénoncé une attaque contre une église. Et on reste au Proche-Orient, en Syrie. Plus de 1300 personnes sont mortes lors des violences à Souaïda la semaine dernière, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les autorités syriennes ont ouvert une enquête sur des exécutions sommaires. Elles se sont engagées à punir les auteurs. Et une décision lourde d'enjeux scrutée en France et à l'international aura lieu ce vendredi. La Cour de cassation dira si elle maintient ou annule le mandat d'arrêt visant le président syrien déchu Bachar el-Assad pour des attaques chimiques en 2013, des attaques qui ont fait des milliers de morts. Et ce sera sa première visite officielle en France. Le Premier ministre libanais se rendra demain à Paris. Nawaf Salam s'entretiendra avec Emmanuel Macron. Quel sera le menu de cette visite officielle? Le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, alors les dirigeants français et libanais évoqueront les enjeux de sécurité au Liban et les grands défis régionaux. Les échanges porteront sur la sécurité, la stabilité du pays et la poursuite des réformes économiques indispensables à la pleine restauration de sa souveraineté et de sa prospérité. Voilà les mots de la présidence française. Elle cite notamment le renforcement des forces armées libanaises. L'Élysée souligne aussi que les deux dirigeants évoqueront la nécessité d'un respect plein et entier du cessez-le-feu, en particulier en ce qui concerne le retrait complet des forces israéliennes. Autre enjeu, Nawel, l'enjeu économique. Le Liban reste plongé dans une crise économique. Le président Joseph Aoun et le nouveau chef du gouvernement ont promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité, et cela dans le cadre de réformes exigées par les bailleurs de fonds internationaux. Emmanuel Macron et Nawaf Salam discuteront aussi des grands défis auxquels fait face le Proche et le Moyen-Orient. En particulier, les conséquences de la guerre en Iran et à Gaza, ainsi que les récents affrontements en Syrie. Et ils souligneront aussi, toujours selon l'Élysée, l'urgence absolue d'un acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Et le Libanais Georges Abdallah, militant pro-palestinien, sort ce vendredi de prison. Pour rappel, il a été condamné pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens dans les années 1980. Il a passé presque 41 ans derrière les barreaux en France. Et dans un tout autre volet, le Portugal a affirmé son soutien à la proposition marocaine d'autonomie du Sahara occidental, la jugeant sérieuse, crédible et constructive. Sur la situation en Ukraine, une troisième session de négociations avec la Russie s'ouvre aujourd'hui à Istanbul. Le Kremlin affirme ne pas s'attendre à des progrès majeurs et reste ferme sur ses conditions. Cette rencontre est organisée sous la pression du président américain Donald Trump, qui donne à Moscou 50 jours pour parvenir à un accord sous peine de nouvelles sanctions sévères. Et dans l'actualité en France, les juges d'instruction parisiens ordonnent le renvoi en procès de la ministre de la Culture Rachida Dati et de Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan, dans une affaire de corruption. Rachida Dati est soupçonnée d'avoir perçu 900 000 euros de façon non transparente de Renault-Nissan pour des services de conseil non prouvés. Et sur l'Euro 2025 féminin, les joueuses anglaises se sont qualifiées en finale hier en l'emportant 2-1 face aux Italiennes. Elles rencontreront donc l'Allemagne ou l'Espagne qui jouent ce soir à partir de 21h. Mais depuis le début du tournoi, Jess Carter, défenseuse de l'Angleterre, est la cible d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. Et cela a provoqué une vague d'indignation dans le monde du football. Les précisions avec vous, Arthur-Claude Savoie.
L'Angleterre joue déjà un autre match, celui contre le racisme. Jess Carter, 27 ans, 49 sélections avec les Lyonnaises, a révélé ce week-end être la cible d'attaques racistes sur les réseaux sociaux depuis le début du tournoi. La joueuse a pris la parole sur Instagram pour dénoncer ses propos haineux et a annoncé qu'elle se retirait un temps des réseaux sociaux, le temps de se protéger. Un geste fort soutenu par ses coéquipières dans un communiqué commun. Il n'est pas acceptable que certaines d'entre nous soient traitées différemment à cause de la couleur de leur peau, écrivent-elles. La fédération anglaise a saisi la police et la sélectionneuse Sarina Wegman a apporté tout son soutien à sa défenseuse. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est également monté au créneau. Dans un message publié dimanche, il condamne fermement ces attaques et promet de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs. Ce n'est malheureusement pas la première fois que les joueuses anglaises sont visées. Déjà, en 2023, l'attaquante Lawrence James avait été victime de racisme. En 2021, Marcus Rashford, Bakayo Saka et Jadon Sancho, côté masculin, avaient aussi subi un torrent de haine après la défaite en finale de l'Euro. L'affaire Carter rappelle une nouvelle fois que le racisme n'a pas disparu des terrains ni des écrans.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à 17h pour notre magazine d'information. Très bonne suite des programmes sur Radio Orient.